Bonjour Bernadette.
Bonjour Karima.
Donc nous allons réaliser cet entretien. Donc je rappelle que Bernadette est quand même une des premières femmes dans la pêche à Gruissan. Et donc c'est un honneur de t'avoir dans nos entretiens. Alors nous allons commencer tout d'abord par une courte présentation. Si tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es.
Alors, déjà mon nom, donc Bernadette, ça tu me dis. Bernadette Marty. Eh bien moi, j'ai été marin professionnel pendant de nombreuses années.
Tu faisais ça quand tu étais jeune, tu
es maintenant retraitée? Non.
Ma découverte... Quel âge as-tu aujourd'hui, tout simplement?
Quel âge j'ai aujourd'hui? Alors, j'ai 69 ans, je suis à la retraite, voilà ce qui est bien.
Et tu as fait ce métier dans la pêche? De quelle période?
Alors, j'ai fait le métier pendant à peu près 25 ans, j'ai commencé dans les années 80, mais j'ai connu un petit peu ce métier à travers d'amis avant. Moi, je vivais à Toulouse. J'ai fait une formation aux Beaux-Arts de Toulouse. Donc, je n'étais pas du tout destinée à exercer ce métier. Mais ben voilà, on fait des rencontres. Donc, un premier ami, Jean-Claude Gomer, qui a été pêcheur ici, je venais le voir. Et là, j'ai rencontré une autre personne qui est devenue mon mari, François. Mais là, on n'a pas commencé tout de suite la pêche. Lui était déjà inscrit maritime sur Gruissan, travaillait avec Jean-Claude comme matelot. Et puis bon, on a continué une formation sur 7, lui dans la pêche, moi au Beaux-Arts. Et on a fait un petit peu d'art pendant quelques temps. Et puis la mère nous a rappelé. Nous sommes revenus nous installer à Gruissan. Et c'est là qu'a commencé l'aventure de la pêche.
Et voilà. Bien, donc tu as fait la pêche avec ton compagnon,
compagnon, oui. J'ai découvert la pêche avec lui et ça a été tout de suite un choix d'une vie d'aventure, mais passionnante.
Très bien, donc tu as fait la pêche pendant à peu près 25 ans, hein,
c'est 25 ça, ans,
c'est ce qu'on
oui.
disait. Est-ce que tu peux nous dire où tu pêchais, la mer, l'étang, et décrire un peu
Oui, alors on a fait les deux. On a fait mer et étang, et ça c'est en fonction des saisons. Puisqu'ici il y a quand même une organisation prud'homale qui gère un petit peu l'espace maritime et lagunaire. Ce qui fait qu'on a des droits de pêche qui s'ouvrent dans les étangs, surtout à l'automne, jusqu'au printemps, à l'époque, hein, parce que maintenant je pense que les règlements ont changé. Et donc on profitait de ces périodes-là pour travailler dans les étangs, puisqu'on pêchait énormément d'anguilles à l'époque. Et qui se vendait bien, voilà. Et puis comme l'étang, on aurait pu faire que ça, mais la mer était quand même un environnement qui nous plaisait beaucoup plus et qui était beaucoup plus, une aventure plus passionnante, on va dire. Donc on faisait la mer et là en hiver on faisait les turbos au trémail. Printemps, arrivaient les sèches, les sols, les passards. Et après, l'été, un petit peu tous les poissons qui viennent à la côte avec les eaux chaudes.
Voilà.
Donc, ça nous faisait un travail très saisonnier, avec une coupure. Janvier-février, où il fait très froid. Déjà, on arrêtait de faire la pêche au turbo parce qu'il y a une migration de crabes en mer. Pour ceux qui pêchent en mer, la connaissent, s'appelle les chambas. Donc là, ils nous prenaient toute la nappe des filets, nous empêchaient de pêcher. Donc là, déjà... On avait déjà quelques semaines à nettoyer les filets après la première
arrivée,
première mauvaise pêche. Et après, c'était la période où on montait les filets, on réparait, on faisait l'entretien du bateau.
Voilà. Vous faisiez les réparations, si on parle d'engins de pêche, donc
oui.
D'abord et après on parlera de réparation des filets.
Oui.
Donc en engin, vous étiez sur la mer avec un bateau.
Oui. Il y avait un bateau spécifique à la mer qui était une vedette qui faisait 8,60 m, équipé d'un remonte-filet.
Voilà.
Donc on était deux à bord.
Et c'est François plutôt qui remontait les filets, toi
Oui, moi j'étais à la barre, François remontait les filets. Oui. Parce que c'était plus physique quand même s'il y avait le remonte-filet. Voilà.
C'était du travail principalement.
Alors, à la mer, on a surtout travaillé au trémail. Donc pour le turbo, les poissons plats, et occasionnellement avec des filets maillons. Et on a commencé au tout début, avant de pouvoir s'équiper, parce que ça prend du temps quand même de se monter, de s'équiper. On a travaillé avec d'autres pêcheurs, donc comme matelots, et acheté un bateau en commun, et après on s'est mis à notre compte. Et là, on a eu une période où on a fait la fameuse scène de plage, la caluche.
Voilà. Voilà. Et en étant, donc...
Et en étant, travailler avec les trabac.
Et toi, quel rôle tu avais à ce moment-là, sur les étangs ?
Sur les étangs, eh bien, c'est moi qui ai relevé les filets. Non, pas tous, on le faisait à deux. Mais voilà, donc on allait à deux, et c'était surtout relever les filets, trier très rapidement le poisson dans les nasses. Ça, oui. C'était aussi... si on a fait choisir aussi ce métier, c'était parce que c'est beau, mais on pêchait du poisson, mais aussi on avait une éthique sur cette pêche aussi. On avait envie de préserver la ressource. Donc c'était important quand on pêchait dans les lagunes d'avoir des grandes bassines sur lesquelles, dès qu'on avait vidé une nasse, on triait très rapidement le poisson pour séparer le crabe des anguilles et des autres poissons. Et dans une bassine avec de l'eau, on gardait tout ce qui était juvénile pour pouvoir le rejeter du côté mer, de l'autre côté du barrage. Voilà, c'était très important. Donc c'est beaucoup de travail sur une barque.
D'accord. Et donc tout ce travail commençait tôt le matin, je suppose.
Lever du jour.
Au lever du jour.
Lever du jour, on est déjà sur la barque. Hein. Voilà, en fait, on arrive sur le filet au lever du jour. Voilà. Donc il y a tout le temps avant, c'est se lever, s'habiller, surhabiller avec des tenues de pêche. On en passe du temps à s'habiller, déshabiller. Et démarrer le moteur et aller sur le lieu de pêche. Voilà. Donc c'est levé du jour, alors ça dépend bien sûr si c'est au mois de septembre
mois de décembre, c'est pas ou au mois d'août.
Ou au mois de juin. Et juin, c'était des levées à 7-3 heures du matin.
Oui.
Pour aller en mer. Donc et le temps de trajet jusqu'à tes filets,
c'est vrai.
On partait à la nuit et on arrivait au soleil levant.
Tout à fait. Et donc ça vous faisait une grosse journée en fait, hein, au lever jusqu'au nettoyage, etc. Ça vous faisait du 15 heures
ou pas? Ah oui, facile, oui, puisque en fait on partait, levait les filets, on revenait milieu de matinée. Milieu de matinée, c'était la vente du poisson et commençait déjà à plier les filets. Le temps de tout ça, on repartait, une fois que les filets étaient pliés, on repartait l'après-midi. Ouais. Pour les poser.
Ça, alors, c'est
bien sûr, la distance qu'on avait choisie, le temps, déjà surveiller la météo aussi, ça met une attention supplémentaire, savoir à quel endroit on va poser les filets en fonction de la météo. Donc c'est toute une énergie qui est mise en route toute la journée. Et après, on rentrait le soir. C'était souvent à la tombée du jour.
Oui, soleil donc champ. C'était des grosses journées.
Des grosses journées, oui.
Revenons au filet. Il y avait une activité dans le couple de réparation des filets.
Oui.
Comment ça se passait?
Alors, on y participait tous les deux, mais la grosse partie, quand même, c'était moi qui faisais.
La couture. Donc, sur la réparation ou le montage.
Voilà, oui. Réparation, c'est surtout sur les filets d'étang. Et le montage, c'était sur les filets de la mer. Parce qu'on achetait ça en kit et on assemblait les... Voilà.
D'accord. Le poisson, qui c'est qui le vendait, ce fameux poisson?
Ah,
comment ça marchait?
Alors, traditionnellement, on imagine que c'est moi qui devais vendre le poisson, mais en fait, dans notre complicité avec François, c'était lui qui vendait le poisson. Voilà. Et moi qui restais sur le bateau pour plier les filets, préparer pour repartir en mer.
C'est exceptionnel.
C'est rare, oui. Mais en fait, c'était bien parce que moi, j'aimais bien le côté bien plier les filets, nettoyer. J'étais très habile là-dessus aussi pour défaire les nœuds, tu vois, les embrouillages de poissons et tout ça. Et François aimait beaucoup le contact et avait vraiment le bagou. Et il était mieux à la vente que moi.
Voilà. Oui, pour les filets, il faut beaucoup de patience.
Alors les filets, oui, c'est de la patience et puis de la dextérité aussi quand même, parce qu'il faut être à la fois rapide, parce qu'on n'a pas du temps à perdre, il faut repartir calé. Et quelquefois, il y a des poissons qui ont fait des nœuds, des crabes, enfin il faut démêler tout ça et remettre plus de fluidité dans la nappe pour repêcher le mieux, quoi. Donc ça peut prendre des heures, des journées, quelquefois on ne peut pas recaler le filet le soir même, il fallait attendre le lendemain parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout finir.
Tout finir, c'est du travail. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres activités annexes autour de la pêche? Bon, pas d'enfants, d'après...
Pas d'enfants, donc on était complètement dédié à la pêche. Donc c'est ce qui nous a permis de faire l'étang, la mer, en étant tenu que par la météo et le mauvais temps. Ça a duré quelques années. Puis... l'évolution en fait de la pêche dans les étangs à la mer a changé puisqu'on a eu des cours du poisson qui ont chuté, la ressource qui a un peu diminué. Donc on a cherché d'autres opportunités. Donc là on a diversifié nos activités d'une manière saisonnière.
Voilà. D'accord. Donc en sus de la pêche.
Les périodes de pêche essentielles ont été gardées, c'est-à-dire l'automne à l'étang et le turbo. Par contre, c'est au niveau de l'été qu'on avait modifié nos activités. Puisque ce qui est embêtant, c'est qu'on pêche beaucoup de poissons en hiver, du beau poisson qui se vendrait très bien si la population locale était là pour l'acheter. Et l'été, quand il y a beaucoup de monde pour acheter, les pêches sont moindres. Donc c'était vexant d'arriver au quai avec pas beaucoup de poissons et trop de clients. Non, c'est la l'air un peu, mais il y a eu aussi ça. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a eu quand même une carrière un peu... Voilà, on a essayé de saisir plusieurs opportunités pour justement combler toutes ces saisons qui étaient un peu déficientes. Donc on a tenu pendant 11 ans un petit restaurant, une petite guinguette, qu'on appelait le Crabe Kiri. Voilà, donc qui durait que juste le juillet-août, mais qui nous faisait un complément. Et là, ça nous permettait aussi de communiquer sur le monde maritime, de faire comprendre aussi ce métier aux gens, parce qu'en étant présent face aux gens, aux clients, on essayait de mettre le maximum de qualité, de faire travailler les locaux. On n'a pas trop travaillé sur le poisson frais, parce que c'était très compliqué, mais... On travaillait avec une conserverie, donc on pouvait expliquer tout ça et ça nous permettait de passer cette saison d'été qui était très dure à la mer. Bon, la restauration, c'est pas de tout repos non plus, mais voilà, qui nous permettait aussi d'avoir un contact avec le public, puisqu'en fait, quand on est pêcheur professionnel, on est souvent tout seul sur son bateau. Donc on a très peu de contact, sauf un peu à terre au moment de la vente de poissons, mais c'est très prenant. Voilà. Ensuite, on a créé peut-être aussi ces liens-là avec d'autres personnes. On a été contacté à un moment donné pour livrer des bateaux de pêche en Afrique. Ça se passait en hiver, donc ça tombait très très bien. Et donc, on a saisi cette opportunité-là et pendant plusieurs années, on a fait des missions en Afrique pour livrer des bateaux. Donc, le restaurant l'été, voilà, on a réussi à jongler avec toutes ces aventures.
Ce qui vous permettait, là, on prend un des thèmes qui est l'économie de la pêche. Donc, en fait, pour vous, ça faisait une entreprise complète entre la pêche et les différentes activités que vous menez pour avoir... une certaine rentabilité globale.
Voilà, oui, pour nous il a fallu diversifier parce que il y a eu des moments assez difficiles. Nous on pêchait à l'époque où il y avait toute l'armada de chalutiers de Port-la-Nouvelle qui zonnait vraiment en face, donc on était souvent en conflit un petit peu avec eux. Donc c'était un peu délicat et la ressource avait vraiment beaucoup baissé à cette époque-là. Ouais. Et je pense aussi que quand je vois maintenant les étals des pêcheurs, les poissons ont changé aussi. Oui. Il y a des poissons qui ont disparu, des poissons qui sont arrivés. Par exemple, les grosses dorades que pêchent actuellement les pêcheurs dans les lagunes, nous, si on en voyait une tous les 10 ans, on était contents. Voilà, donc beaucoup de choses ont évolué. Il n'y a plus cette horde de chalutiers en mer. Je pense qu'il y a une... ressources qui s'est faite, les dorades sont là, de nouveaux poissons sont arrivés. Je pense que les écosystèmes ont été modifiés.
Qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple sur un poisson qui est arrivé qui n'y avait pas à l'époque?
Déjà, alors à l'époque on faisait la caluche, on descendait quelquefois jusqu'au Barcarès pour pêcher. Maintenant, on a plus, les prud'homies ont sectionné. On allait à l'E4, enfin, mais maintenant, on ne peut plus. Hein, les prud'homies ont protégé leur territoire. Mmh. Et là, on allait chercher à Barcarès le marbré. Et ouais. Ici, on ne pêchait jamais un marbré. Mmh. La dorade rayée, hein, tu sais, et le tenillé, comme on dit ici. Mmh. Et petit à petit, elle s'est remontée.
Elle est remontée,
oui. Parce que le tenillé est remonté, oui. Après, dans les lagunes, il y a aussi des espèces qui ont disparu. On pêchait des crevettes grises, on pêchait des petits gobies qu'on appelait les munao. Mmh. Tout ça, ça a disparu. La pluie a disparu. Mmh. Donc, il y a eu des modifications des écosystèmes.
Tout à fait. Ouais.
Certainement, plusieurs facteurs, hein. Oui. On ne peut pas dire que c'est un seul. Peut-être des pollutions, le réchauffement climatique, l'exploitation de la mer, la manière d'exploiter la mer. Mm. Donc tout ça a dû modifier. Nous, on a eu quand même des... Et puis, il y a eu à notre époque aussi l'arrivée des poissons d'élevage.
Oui.
Que ce soit le loup et le turbot. Et là, les prix du sauvage avaient chuté. Donc, on a été obligé de s'adapter, de créer. Et puis, nous, ça nous amusait. On avait besoin de cette aventure-là aussi.
C'était une belle motivation.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, revenons à la pêche. Est-ce que tu étais membre de la prud'homie? Comment ça...
Alors, au début, je n'étais que conjointe collaboratrice. Hein. Et après, j'ai été matelot, donc à ce moment-là, on rentre à la prud'homie, oui.
Parce que tu avais suivi les formations. J'avais
suivi le CIN, j'ai fait un petit diplôme de mécanique marine. Et après, donc, à partir du moment où on est inscrit maritime, on a le droit de rentrer à la prud'homie.
Avais-tu le droit de vote?
Ce sont que les patrons. Mais on est consulté quand même, on est...
Bien. Est-ce que tu faisais partie d'autres réseaux professionnels ou avais-tu des contacts directs ou indirects avec les frimaires, avec les comités
locaux
de pêche ou autres?
Mais oui, on est bien sûr qu'on avait des contacts avec les autres. Bah, déjà, toutes les organisations maritimes, que ce soit le comité local des pêches. Et après, on a eu la chance de rencontrer une association qui s'appelait déjà Mésis à l'époque. On travaillait avec l'IFREMER, parce que l'IFREMER s'est toujours intéressé un petit peu aux poissons. Il y a une association donc, qui était venue et je me souviens, on était des jeunes pêcheurs, eux des étudiants, et ils venaient faire des expérimentations et on a participé à quelques études pour les aider.
Du coup, ça vous rajeunit.
Voilà, tout à fait.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait des réseaux de femmes à cette époque? Comment ça marchait? Parce qu'il y avait quelques femmes, tu étais la première, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Comment ça marchait?
Alors, non, il n'y avait pas de réseau de femmes, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on était vraiment chacun dans son travail, et on se voyait très peu, sauf pour les fêtes de la Saint-Pierre.
Ah oui.
Où là, on se retrouvait et c'était l'occasion d'échanger entre femmes. Quand moi, j'ai commencé la pêche, il n'y avait aucune femme qui naviguait. Il y en avait une dans le temps qui allée sur le Lamparo avec son mari, mais aucune femme dans la pêche, ça c'est sûr. Donc, c'était nouveau. Voilà. Après, tout le monde a regardé ça d'un œil du bord du quai en se disant « ils n'y arriveront jamais ». Surtout avec mon gamin. Mais comme on était tenaces, on y est arrivé. Et donc, ça, c'était bien. Donc après, il y a eu respect et d'autres femmes, vu que c'était possible, ont commencé à travailler avec leur mari ou leur père.
Ou leur père, tout à fait. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce métier?
Les difficultés, le plus c'était le climat, le temps, l'hiver, le froid. Travailler dans des conditions de froid. Les tempêtes, on savait que ça pouvait arriver, mais le froid c'était plus dur. Et les périodes très longues où il faisait toujours beau et qu'on n'avait pas de temps pour se reposer. On attendait une tempête. Non, c'est très physique, mais c'est tellement cet environnement et cette présence toujours active à ce qui se passe. C'est... Et puis la mer, quoi, la mer, c'est...
Et tu parlais de ton gabarit.
Oui.
C'est quand même un métier physique.
Oui.
Comment tu faisais pour arriver là où les hommes font souvent en force?
Alors, en mer, c'était moi qui étais à la barre, donc avec les roues hydrauliques, tout ça. Après, c'est une question d'adrénaline et de voilà. C'est François qui levait les filets. À l'étang, j'ai levé les filets aussi, mais on trouve des techniques pour s'alléger et puis on prend le temps. C'est tout, on va pas là. On choisit ses gestes aussi. Voilà, oui. Et on prend conscience de son corps et de savoir comment se tenir pour pas s'abîmer. Mais le froid, là, il faut mettre 36 pelures et là, c'est. Mais on le fait quand même, parce que de toute façon, après le froid en étant, c'est les trajets qui sont difficiles. Après, on bouge.
Une fois après, on bouge.
Oui, on bouge. Donc là, ça se gère après. Mais le temps des trajets était très dur.
Oui, tu disais que tu relevais les filets, que vous preniez le temps,
oui.
Notamment pour trier le poisson, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Oui, ça c'était important.
C'est-à-dire
comme je l'ai dit tout à l'heure, trier le poisson, c'est pour la qualité déjà, pour pas que le poisson s'abîme, et pour pas rejeter les juvéniles et tout ce qui n'était pas vendable encore vivant et que ça continue à suivre sa vie.
Sa vie, oui. Se développer.
Voilà.
Alors la dernière question, c'est comment vois-tu la femme dans le futur, dans ce métier ?
Alors je sais actuellement qu'il y a des jeunes femmes qui sont installées à la mer, qui sont même dans les étangs et qui sont patrons pêcheurs. Bravo. Nous, on a plutôt été ma génération, on s'est pas installé comme patron, on a plutôt travaillé avec nos compagnons ou nos pères. Et là, la jeune génération, elle a plus la niaque, visiblement. Donc, moi, je suis admirative parce que c'est quand même très dur. Très, très dur, physiquement. Les conditions... Nous, on a eu des conditions difficiles, mais les conditions actuelles sont quand même difficiles parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les années futures sur la ressource, sur les réglementations de la pêche. Et puis là, elles sont jeunes, dynamiques. Moi, je me souviens, on cassait tout, hein. S'en fichait, on n'avait pas peur de le mauvais temps, faire aller dans des expéditions pas possibles, on dormait sur le bateau pour la nouvelle pendant, voilà, enfin, mais avec le temps, voilà, on verra. Après, c'est vrai que c'est quand même très fluctuant. Là, on est quand même dans une époque où il y a tout ce changement climatique, il y a tout. Les marchés qui sont très fluctuants, la ressource varie, le carburant, enfin, ce sont des petits métiers quand même, donc ils sont encore dans une sorte de démarche où théoriquement la ressource devrait être protégée, devrait avoir un comportement éthique par rapport à leur travail. Je le souhaite, mais ouais. Bon courage quand même.
Merci beaucoup, Bernadette.